Il existe des fous géniaux, des perchés qui ont l'énergie de tordre la réalité pour la modeler à leurs rêves, à leurs risques et périls. Michel Magne était de ceux-là, un compositeur et un peintre qui fait l'acquisition d'un château dans le Val d'Oise en 1962. C'est le château d'Hérouville. 1969, le château brûle et toute l'œuvre de Michel Magne avec. Mais Magne repart à l'attaque et décide de créer des studios d'enregistrement là, dans le Vexin, en pleine campagne. C'est le premier studio résidentiel au monde. D'autres sauront lui piquer l'idée ailleurs et plus tard. Au château, on crée, on mange, on boit, on déconne, on fait l'amour. La vie, quoi. Et jusqu'au début des années 80, Hérouville devient l'un des centres du rock'n'roll mondial. Elton John, T-Rex, David Bowie, Iggy Pop, Jacques Higelin, Claude Nougaro, tous sont passés ou ont vécu là. Le château d'Hérouville, c'était ça, l'Angleterre, la Californie ou l'Afrique, dans le Val d'Oise. Et un peu avant midi, Pop & Co met le cap sur les Antilles avec du blues créole. Ce matin, on soulève le capot d'une chanson d'un trio qui s'appelle Delgrès. Bonjour, bienvenue. C'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Jean-Yann sort son premier film. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et ce tout est mis en musique par Michel Magne. En fait, on est nombreux à connaître la musique de Magne sans le savoir, parce que tout au long des années 60 et jusqu'au milieu des années 70, il a signé une centaine de bandes originales. Et plus éclectique que le répertoire de Michel Magne, c'est pas possible. Parce que... la musique des tontons flingueurs, c'est Magne. Celle d'un singe en hiver, aussi. Celle d'Angélique Marquise des Anges, encore Magne. Musique de Fantomas, toujours lui. Celle de Belle de Jour de Luis Buñuel, et ben pareil. Et avant tout ça, Magne Michel, né à Lisieux par inadvertance en 1930, a roulé à toute blinde sur les routes de Saint-Tropez dans une Jaguar avec Françoise Sagan. Ils se sont aimés. Dans le même temps, il compose de la musique contemporaine pionnière et loufoque avec des œuvres qui s'intitulent « Mémoire d'un trou » ou « Carillon dans l'eau bouillante ». Magne Michel au piano et devant les caméras de l'ORTF en 1974, il se présentait comme ça.
Je suis les deux. Je suis un romantique et je suis un farfelu, et pourquoi pas? Mais j'ai l'impression que les véritables romantiques sont des farfelus. J'espère rester toute ma vie un farfelu et j'espère rester toute ma vie un romantique.
Et on arrive à pieds joints au début des années 70. Magne est propriétaire d'un château dans le Val d'Oise, donc le château d'Hérouville, et il a ce projet fou, transformer le lieu en studio d'enregistrement. Tout le monde lui dit, un studio à 40 bornes de Paris, personne va venir. Et l'un des premiers à y être pour enregistrer, c'est Monsieur Eddy.
C'est facile, les promesses et les serments. C'est facile, d'être amoureux tout le temps. C'est facile, de le dire à tout moment. C'est facile avec toi de faire des enfants.
La porte est ouverte.
Alors entrez et descendez au sous-sol, vers le Labomatic Studio, pas loin des Champs-Élysées à Paris. C'est là que bosse Dominique Blanc-Francard, ingénieur du son, dont le nom figure, entre autres, sur beaucoup des disques qui comptent dans la chanson française, de Serge Gainsbourg à Michel Delpech, en passant par Benjamin Biolay. En mars 1971, Dominique Blanc-Francard a 26 ans, et à la demande de Michel Magne, il vient travailler au château d'Hérouville.
Il me fait visiter le studio, et quand j'ai vu l'endroit, la pièce quoi, je suis rentré dans le studio, je fais « waouh ». Après je rentre dans la régie, quand je vois le matériel, je fais « waouh ». Mais en même temps, à l'époque, j'étais très orienté technologie, parce que j'avais pas d'autre moyen de comprendre comment ça marchait, mais plus il y a de micro, plus il y a de machine. Mais j'avais sous-estimé le son de l'endroit. honnêtement, quand je suis arrivé au château d'Héroville, je n'avais pas la moindre idée de ce qui allait s'y passer. C'est juste que je m'ennuyais là où j'étais, et là j'ai entrevu une porte de liberté et une opportunité de travailler. Je gagnais beaucoup moins d'argent que là où j'étais avant, mais avec des gens qui m'intéressaient, une musique qui m'intéressait, et de sortir un peu des sentiers battus, quoi. Mais jamais on n'aurait pu imaginer ce résultat-là.
Vous l'aimiez, Magne ?
Ah ouais, moi j'adorais ce gars, parce que c'est, comment dire, le magnétisme, la magie de Magne qui avait ce talent de lancer une idée. Vous me suivez ? Si vous me suivez, on le fait, mais si vous ne le faites pas, en gros, vous êtes viré, quoi, parce que vous n'êtes pas capable de suivre une bonne idée. Et ça a été comme ça, pendant les 3 ans que j'ai bossé là-bas, c'était comme ça tous les jours. C'était brillant de travailler avec lui.
Juin 1971, le Woodstock français est organisé à Auvers-sur-Oise. Le groupe de rock psychédélique Grateful Dead devait s'y produire en star numéro 1, mais il y a eu des trompes d'eau et ça a été l'annulation. Qu'à cela ne tienne, le Grateful Dead propose à Michel Magne de venir jouer dans le parc du château. Et Magne invite tous les gens du coin, paysans, bistrotiers, boulangers, qui vont planer jusqu'au bout de la nuit.
Roll on up, gonna roll back down.
C'était un moment de pur psychédélisme.
C'est-à-dire
que c'était quand même, le Grateful Dead était le groupe californien le plus en vogue à l'époque, donc le modèle hippie même. Le côté pernicieux, c'est qu'on était environné de cartes de flics parce qu'on était sur écoute, comme ils étaient considérés comme un groupe subversif. Il y avait le dealer des Grateful Dead, un mec qui venait pendant 3 jours leur amener une collection inouïe d'échantillons d'un peu de tout, avait quand même une Ferrari 250 GT. C'est quand même inouï de voir un mec arriver avec une Ferrari 250 GT, sortir sa valise et vous prenez quoi, prenez quoi, prenez quoi. Bon. Tous les gens qui ont assisté à cette soirée se sont retrouvés ou raides à l'herbe, ou raides au LSD, parce qu'ils distribuaient, personne ne connaissait l'acide en France, à part quelques initiés. Et donc pendant des journées entières, suivant ce conseil, il y a eu des sillons obliques dans les champs, et des paysans qui se retrouvaient au bar dérouillés, disant quand même, c'était sympa ces Américains, c'était drôle, la vie est vachement agréable après un concert de cet orchestre, c'était inouï. Les pompiers qui sautaient dans la piscine, parce qu'évidemment le concert interne au château n'a pu être organisé qu'avec l'accord du préfet, de la gendarmerie, de la police et des pompiers. Et le colonel des pompiers, qui avait un accent comme ça, était dans le camion des pompiers, il disait toutes les 10 minutes, adjudant machin, allez voir ce qui se passe. Et le gars, il partait à la piscine. Il retrouvait tous ses potes, il revenait pas. Ça durait toute la nuit comme ça. Ils sautaient tout habillés dans la piscine, les mecs, tellement ils étaient raides. C'était mais incroyable. C'est un moment unique. On peut pas oublier un truc pareil.
C'est bon, Juliette. Merci. Pardon, excusez-moi, ça y est, je suis totalement disponible. Excusez-moi, j'étais...
Voici Yann Le Kellec, scénariste d'un roman graphique magnifique, dessiné par Romain Ronzeau. Les Amants d'Hérouville, c'est le titre. 250 pages de dessins, documents d'époque, photos, pour entrer dans la vie de Michel Magne et du château d'Hérouville. Cette scène du concert du Grateful Dead, où le monde est stone et dans la piscine, y est écrite.
Le concert du Grateful Dead, c'est effectivement un précipité, au sens presque chimique, de cette époque et des croyances qu'elle véhiculait. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois quand même un horizon américain, au sens où la pop culture et la pop musique de l'époque quand même étaient très largement, en tout cas sinon américaine, du moins anglo-saxonne. Mais c'est également un endroit où les barrières sociales, pendant un instant, le temps d'un concert, n'existe plus. C'est-à-dire que les paysans, les pompiers, ce groupe américain, toutes ces frontières s'abolissent dans un idéal quand même de liberté qui paraît très lointain aujourd'hui. Et puis c'est aussi un endroit où, entre les arts, Hérouville est un endroit où des cinéastes, des peintres, des musiciens classiques ou des musiciens pop se retrouvaient. C'est-à-dire il y avait un petit peu cet idéal, oui, utopique, où finalement il y a, et ça c'était très important pour Michel Magne, de dire qu'il n'y avait pas de haute culture, de haute musique, de musique noble et de sous-culture qui serait la culture populaire. Pour lui, justement, il disait que les Beatles valent bien Beethoven et il adorait les deux. Et ça, c'était quelque chose quand même, donc de réconciliation totale, d'une utopie, d'une harmonie possible, mais qui ne soit pas une harmonie d'un consensus mou, mais dans une créativité, une réinvention de soi et d'un soi et d'un collectif, une réinvention permanente, qui en effet, à mon avis, symbolise et est vraiment un précipité au sens presque chimique du terme de l'esprit de cette époque-là, qui correspond d'ailleurs à la fin des Trente Glorieuses, qui correspond à l'époque juste avant les chocs pétroliers, enfin de ce moment où cette liberté paraissait beaucoup plus accessible probablement qu'elle ne le paraît aujourd'hui, quoi.
Été 71, à Villefranche-sur-Mer, les Rolling Stones enregistrent leur album Exile on Main Street. Et pendant ce temps, Michel Magne est en vacances avec ses copains à Saint-Paul-de-Vence. La suite, c'est Dominique Blanc-Francard, ingénieur du son des studios du Château d'Hérouville, qui vous la raconte.
Il revient, il dit, c'est dingue, j'ai rencontré le bassiste des Stones. Tu sais, Bill Wyman, je connais Bill Wyman, le bassiste des Stones. Et alors, ils sont dans le sud, il va venir au château. J'ai dit oui, et ta mère, c'est la reine d'Angleterre. Et on en reste à cette blague. Et une semaine après, il rentre dans la cabine, il me dit, tiens, je te présente Bill Wyman, qui venait à Paris. Et donc, je vois arriver Bill Wyman, qui visite l'endroit et qui dit à Magne, génial, j'adore ton truc, c'est formidable, je vais faire un album ici.
Et Bill Wyman déboule au château pour produire l'album d'une bande de chevelus, le groupe Tucky Buzzard. Dominique Blanc-Francard assure la prise de son.
J'étais complètement décalqué d'avoir ce que je parlais très mal anglais, donc, et eux, ils ne parlaient pas du tout français. Ils commençaient à 9h du soir, ils finissaient à 9h du matin. Donc, j'étais encore plus décalqué. Et je devenais sourd tellement ils jouaient fort. Enfin, c'était un peu ça l'ambiance, quoi, toute la nuit. Quand ça a été fini, je me suis dit, bon là j'ai raté un truc parce que bon, j'ai dû planter l'album, c'est vrai qu'on y va écouter les bandes, il va dire c'est atroce, on ne retournera jamais dans cet endroit-là. Et là, pas du tout. Il a rappelé Magne la semaine d'après le mix en disant, écoute, je viens de finir l'album qu'on a enregistré chez toi, le son est absolument incroyable, ton studio il a un son de ouf. Et il dit à Magne, putain mais je vais te faire de la pub. Et nous, on est un peu habitués à ce genre de discours de la part, ouais génial, je t'emboîte. Hein? Mais lui il l'a fait. Et deux semaines après, le téléphone commence à sonner et le premier client qui l'a fait venir, à qui il en a parlé, c'est Elton John qui est arrivé, qui s'est installé pour faire Honky Château. Et là, c'est à partir de ce jour-là, ça a été un défilé ininterrompu jusqu'à ce que ça s'arrête en fait.
Elton John conçoit trois albums en trois ans à peine au château d'Hérouville. Et Elton aime tellement l'endroit que son premier disque, écrit et enregistré là, s'intitule « Honky Château ».
Et Elton, c'était pareil, c'était encore des histoires de ouf, parce qu'il y avait Bernie Taupin.
Son parolier.
Son parolier, qui prenait tout le petit déjeuner vers 10h du matin. Il décidait d'une chanson. L'autre, il montait dans sa chambre toute la journée, il essayait d'écrire un texte. Pendant ce temps-là, Elton et les musiciens, avec Gus Dudgeon, le producteur, Ken Scott et toute la bande, ils travaillaient sur la chanson qu'ils jouaient toute la journée jusqu'à ce qu'elle soit comme s'ils avaient fait un concert avec depuis 10 ans. Le soir, l'autre amenait le texte, il chantait la chanson. Et pouf, en boîte, next. On découvrait ça, nous, parce qu'on ne connaissait pas le mécanisme des artistes de tournée mondiale. Donc il avait 20 jours de break. Ces 20 jours de break, il avait trouvé un studio où il pouvait s'enfermer, à la fois être peinard, il n'y avait pas de promo, pas de gens qui venaient l'embêter. Il faisait que sa musique. Après, il repartait en tournée. Donc il fallait que ça trace, quoi.
Pour la chanson Honky Cat, qui figure aussi sur l'album Honky Château, Elton John et son équipe avaient besoin d'une section de cuivre.
Et donc ils avaient demandé qui on pourrait appeler pour jouer cette partie de cuivre. Et donc les trois meilleurs musiciens français de Paris, de studio, sont venus à 8h du soir, en pensant faire une petite séance, ils sont partis à 8h du matin. Tout était en fait écrit sur le tas. Vas-y, on pourrait jouer ça. C'est très nouveau comme façon de travailler. Aujourd'hui, ça paraît simple, mais à l'époque, les musiciens de studio, ils lisaient des partitions. Là, ils arrivent dans un truc où c'est que des Anglais qui très brillants, qui savent exactement ce qu'ils veulent, et qui disent « pourrais jouer ta badadadadada ». Ils repartaient éreintés le matin, mais en disant « on a fait une séance de toute la nuit avec un Anglais ». Ça fait le tour de Paris, c'est énervé tout le monde. Et moi, j'étais aux anges, ils étaient tous, devenaient tous fous, en disant « il se passe un truc incroyable au Château d'Hérouville, il y a des Anglais, des... » Mais c'était dingue.
C'est-à-dire que quand vous parlez de cette histoire de choses complètement nouvelles, où d'habitude, les musiciens, ils arrivent en studio entre telle heure et telle heure, avec les partitions toutes écrites, là, il y avait une spontanéité et une façon de faire qui était beaucoup plus immédiate, en fait.
Carrément, mais c'était tout... Et en plus, à l'époque, c'était quand même Pathé Marconi, c'était des blouses grises, quand même.
Et très réalité... administrative, institutionnelle.
Alors, le directeur artistique arrive en costume, il sent l'aftershave, il se met dans une chaise, il lit le score à l'envers, il lit le journal, il attend que ce soit fini pour distribuer les feuilles de paye. L'arrangeur avec ses partitions, le chanteur, on lui dit, ben voilà, maintenant tu chantes dessus. Ah ouais, c'est ma chanson, oui, ben, ça sera ta chanson, tu vas chanter dessus. Ben, c'était quand même très rigide, quoi, en fait. Et là, on arrive avec des chevelus qui fument de l'herbe à longueur de journée, qui ne savent pas une note de musique et qui créent des trucs absolument inouïs, qui en plus font des numéros 1 mondiaux. Donc c'est un changement radical, sociologique, technologique et humain. Enfin, très content d'avoir participé, d'avoir vu ce truc se construire, parce que c'est la musique, c'est ça quand même.
La musique, c'est donc une section de cuivre française pour le Honky Cat d'Elton John.
C'est passionnel, mais c'est un boulot qui consomme une énergie, mais terrible, quoi. Et donc, à un moment donné, il faut déconner. Et alors, ce qui était marrant de voir, c'est que nous, on déconnait, on buvait une bouteille de vin à trois à table avant de retourner bosser, parce que, putain, c'était dur. Et les Anglais, ils fumaient trois pets. Nous, s'ils buvaient un verre de vin, ils pouvaient plus jouer, ils roulaient par terre. Et nous, si on fumait une taf, on pouvait plus travailler, on roulait par terre. Donc, c'était deux cultures radicalement opposées qui... On finit par se croiser à un moment donné, parce que la culture se transmet, mais au début, ils n'étaient pas fiers hein, avec le vin rouge, les Anglais.
J'ai une petite fille d'un an et demi qui commence à ramper là derrière moi, donc j'ai un peu perdu le fil. Je pourrais essayer.
Bon. Si, comme Yann Lekelec, vous avez perdu le fil en raison des événements de votre vie domestique, un bref rappel des faits, vous écoutez un épisode de Pop & Co dédié à l'odyssée des studios du château d'Hérouville, où sont passés entre autres Elton John, David Bowie ou encore Jacques Higelin. Et dans le roman graphique « Les amants d'Hérouville » scénarisé par Yann Lekelec, il y a Serge Moreau, un ami d'enfance de Michel Magne, propriétaire du château. Serge Moreau fut le cuisinier de ce château et il servait bon plat et bon vin aux résidents en récitant du Baudelaire. Enregistré au château, c'était aussi ça, être reçu comme des princes. En 1971, les Anglais de T-Rex, le groupe de Marc Bolan, publient un album qui contient ce tube. Get It On, donc. L'année qui suit ce disque, 1972, Marc Bolan et son producteur, Tony Visconti, se retrouvent au château d'Hérouville pour enregistrer une chanson diffusée sur la télé française. Visconti, producteur, sort du studio et tient ce langage à Michel Magne. C'est super ici, je vais y venir faire un album avec T-Rex.
Et Magne dit à Visconti, et alors qu'est-ce qui va l'enregistrer l'album? Et Tony se retourne vers moi, ben dis-lui, le gars du studio, il est sympa, ça va très bien se passer. Je me dis, oh la vache, ça va être dur, ça va être compliqué. Et donc je me suis retrouvé à enregistrer cet album avec Visconti et Marc Bolan, qui était au demeurant un musicien exemplaire, un chanteur hors norme et un garçon d'une gentillesse, mais une bénédiction. Et donc j'étais immergé dans ce truc-là et ça a été ma première leçon de rock'n'roll pur, puisqu'en fin de compte, nous, on était habitués à des groupes français dont le niveau était relativement moyen, pour être aimable. Et je me prends aussi le premier beat de ma vie, parce qu'au bout d'une heure de séance, Visconti me dit, bon, t'es content de toi, t'es fier du son qu'il y a là? Je dis, oui, pourquoi? Bah, c'est horrible. Il me dit, on va tout refaire. Donc il m'emmène dans le studio, il me fait démonter tout ce que j'avais installé. Il me dit, tu vas voir, on va mettre la batterie là, on va mettre la guitare ici, c'est pas ces micros-là qu'on va prendre. Il installe tout lui-même. Il m'emmène dans la régie, il me dit, vas-y, maintenant, ouvre les micros, et puis, les gars, vous pouvez jouer. Et là, j'entends le plus énorme son que j'avais jamais entendu de ma vie. Et j'étais humilié, mais en même temps, je dis, merde, c'est dingue, c'est comme ça qu'ils font.
Et Dominique Blanc-Francard se retrouve donc à enregistrer The Slider, album de T-Rex, sorti en 72. L'endroit même où on place une guitare dans la pièce, le micro qu'on choisit, c'est absolument déterminant.
Déterminant, je dirais l'analogie qu'on pourrait faire, c'est le photographe qui a un sujet dans un cadre. Il va d'abord choisir, en fonction du sujet, le cadre où le sujet va être le plus en valeur. Et quel objectif il va prendre pour traduire l'image qu'il voit, qu'elle soit compréhensible pour les gens. Ben, nous, c'est pareil, quel micro on va prendre qui va capter le mieux possible l'instrument qu'il y a là? Peut-être le micro que je vais mettre aujourd'hui devant la guitare de Marc Bolan ne sera pas le micro qu'on mettra devant la guitare de machin, parce que c'est pas la même guitare et c'est pas le même jeu. Et ça, c'est un truc fondamental, mais qu'on apprend. Aujourd'hui, on apprend ça à l'école. À l'époque, il n'y avait pas d'école. Aujourd'hui, on apprend ça sur Internet par des tutos. À l'époque, on pouvait l'apprendre qu'en voyant des gens qui savent en train de le faire. Et à ce moment-là, il y a un déclic. Soit on se dit, putain, je suis content d'être dans une école et je fais exactement ce que le gars me dit, ou on fait une tête de lard et on dit, attends, bah, t'es gentil, c'était très bien ce que j'avais fait, et c'est fini, quoi. Et pendant 3 ans, j'ai appris. Grâce à ça, pour moi, c'est le plus grand stage de ma vie. Parce que on a rencontré que des gens qui en savaient 100 fois plus que nous, évidemment. Et cette école de Visconti, elle m'a appris un truc. Le son, c'est pas nous qui le faisons.
C'est-à-dire que c'est pas la machine aussi.
Non. J'ai quand même eu des gens qui m'ont dit un jour, tu pourrais pas faire le son de John Lennon avec tous les boutons qu'il y a là? Et au début, on y croyait. On s'est dit, on est con, on n'y arrive pas, on est mauvais, quoi. Puis on n'arrive pas à faire le son de John Lennon avec tous ces boutons qu'il y a là. Et après, c'était, ben, appelle John Lennon, comme ça, tu auras le même son. Mais c'est long avant de comprendre ce chemin-là. Et donc, en fait, on dormait 2 heures par nuit, mais c'était magique, quoi. C'était.
Radioscopie.
Ça, ça n'était pas une émission de la nuit, mais du jour. En mars 1970, Michel Magne, musicien, châtelain et inventeur fou des studios d'Hérouville donc, est l'invité de Jacques Chancel.
Louis XIV, enfin pardon, Michel Magne, non, je pensais au château.
Vous avez tort d'y penser, parce que moi j'y pense plus du tout.
Donc vous avez ce château Louis XIV à Hérouville, cette grande maison, ça n'est pas seulement la maison d'un seigneur, c'est plutôt la petite maison d'un artisan.
Exactement, oui.
Avec 100 pièces, mais enfin, ça se
trouve. Et ça, c'est bien vrai, non. C'est-à-dire que j'ai fait là-bas un studio d'enregistrement. Pourquoi un studio d'enregistrement? Parce que j'estime que le compositeur moderne, à l'heure actuelle, ne doit pas forcément se servir de son crayon et de son papier. On doit être, à l'époque de la fusée, on doit être quand même un peu plus moderne. et avoir à sa disposition la possibilité de transcrire immédiatement ses idées musicales. C'est un studio d'enregistrement qui est très vaste et qui est très moderne, c'est-à-dire qu'il y a tous les avantages d'un studio aussi perfectionné que tous les plus grands studios de Paris, mais en plus, il est le calme de la campagne, et en plus, il y a des chambres d'écho, par exemple, que j'ai fait, qui sont absolument uniques parce que j'ai beaucoup de place là-bas.
Dans l'histoire de la production musicale, le château d'Hérouville correspond à l'époque où le studio d'enregistrement est au centre du jeu pour faire de la musique. On l'utilise comme un instrument technique à part entière pour inventer des sons qui ne pourraient pas être fabriqués autrement. En 1972, le groupe Pink Floyd est au château pour enregistrer ça. C'est la bande originale d'un film de Barbet Schroeder qui s'intitule La Vallée. Après l'enregistrement de cette BO, Dominique Blanc-Franca se retrouve en studio avec les Pink Floyd.
J'étais ultra fan de Pink Floyd avant Hérouville. Donc rencontrer ce groupe et travailler avec eux, c'est vraiment extraordinaire. Et donc ils voulaient trouver une autre forme musicale que la guitare, les claviers, les synthés, tout ça. Ils avaient l'idée de faire des sons. Donc ils avaient commencé par faire un genre de grosse caisse en tapant avec une basket sur une planche, mettant un micro tout près, ça faisait un son comme ça. Donc on avait trouvé un tempo. Après, il fallait faire une caisse claire. Et pour faire une caisse claire, ils avaient dit, tiens, on va essayer une bombe aérosol, un genre de spray. Pssht, pssht, pssht. Donc on passait des heures à essayer d'enregistrer un pssht qui sonne le plus proche. Et puis Roger Waters, s'il voulait faire une basse, il avait pris deux clous sur une planchette avec un élastique comme un petit moteur d'avion, et puis il faisait dwing, dwing, un micro Neumann à 1 cm de l'élastique.
Ce qui est la haute couture du micro, le micro Neumann.
C'est un micro très sensible, ça faisait exactement comme une contrebasse, un son énorme, très gros. Et donc, la matière existait, et après c'était, comment on va les mettre ensemble? Et impossible de les synchroniser, de les enregistrer, superposer, parce que chaque fois qu'on faisait une boucle, ça se décalait. Donc au bout d'une journée, ils avaient trouvé des sons nouveaux et originaux, mais ils étaient inutilisables. Et donc c'est là ils m'ont regardé, ils m'ont dit, tu sais, il est vachement bien votre studio, mais pour l'instant je crois qu'il n'y a aucun studio qui soit aussi évolué que nos idées, donc je sais pas comment on va faire. On est en 1972, c'est la pensée 6 ans, 7 ans avant les premiers samplers, quoi. Qu'après c'est devenu simple de pouvoir faire ce Boeing et de le caler sur une piste. Pour eux, c'était l'idée du son qu'ils voulaient entendre existait, mais la manière...
Mais les moyens pour le faire n'existaient pas.
Pop & Co. sur France Inter.
Je suis comme un pygmée. Je suis un pygmée occitan, voilà.
Et maintenant, qui va là ? Claude Nougaro, présent au château d'Hérouville pour enregistrer l'album Locomotive d'or avec un ensemble de percussionnistes sénégalais et guinéens.
Ça, c'est un souvenir absolument magnifique. D'abord, ce que je suis fan, j'étais fan absolu de Nougaro. Locomotive d'or, le concept, c'était un groupe de musiciens africains avec, je sais pas, une douzaine de percussions. Il y avait bien 14 musiciens. On se retrouve dans le petit studio d'Hérouville, celui qui était au fond de la cour, pas le celui d'en haut, avec déjà 8 musiciens sur les 12. On n'entendait plus rien tellement ils tapaient fort. Et je devenais fou. Je me dis, on va jamais arriver à faire ce truc. C'est impossible, quoi. Et il me vient une illumination. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais ça nous a sauvé la vie. Il faisait beau. J'ai dit, c'est quoi ? On va les enregistrer dans la cour.
Mais ça remue. Je vois pas pourquoi vous êtes constipé maintenant.
Voilà. Ça y est ?
C'est pas bon. Et on avait la longueur de câble, on a sorti tous les micros. Heureusement, il faisait beau. On les a mis dans la cour, ils ont commencé à jouer, mais le son, c'était dingue, quoi. Et là, on s'est regardé, on s'est dit, on a un truc inouï, un coup de chance inouï, dû à une impossibilité. Et on a enregistré toutes les chansons avec les groupes africains, comme ça. Parce qu'en plus, le côté en extérieur, il n'y a pas du tout de réverb, il n'y a pas de résonance. Et le truc s'est mis à prendre une dimension... on aurait cru que ça avait été enregistré là-bas, en fait. Et avec son flow, et son texte, et son histoire, et... Et c'était un coup de chance, sinon le disque était cuit, quoi.
Mais ça, c'était aussi possible grâce au lieu.
Ben
ah
oui.
Ben, on peut pas faire dedans, ben on va faire dehors.
Exactement.
comme un enfant s'endort ayant vu le miracle, comme un enfant s'endort dans l'œuf ailé de Pâques, dans l'amour tournoyant. Locomotive, locomotive.
Spéciale dédicace à Fabrizio Manzoni.
Descendre dans la gare divine, dans la gare divine, le chef de gare est aimé, dans la gare divine, la locomotive d'or va souffler, comme un enfant s'endort, locomotive d'or. Comme un enfant s'endort, locomotive d'or.
Un matin d'octobre 73, Dominique Blanc-Francard arrive au studio du château d'Hérouville pour une nouvelle séance d'enregistrement, mais la console n'est plus là et les câbles ont été coupés. Michel Magne, esthète mais flambeur, avait accumulé des dettes énormes. C'est la fin du château d'Hérouville, première période.
Cet endroit m'a captivé, il m'a plu. Je pense que c'est assez ésotérique, parce que c'était quand même un truc qui était très chargé. Les murs sont chargés de quelque chose. Et ça a été vraiment un déchirement quand ça a été fini. Je me suis retrouvé sur le marché de l'emploi en me disant « qu'est-ce que je fais après Hérouville? Qu'est-ce que je peux bien faire ?» Le patron du Soudavou voulait m'embaucher à Davout. Je lui disais, mais même en rêve, c'était même pas pensable, quoi.
Pourquoi même en rêve, c'était pas pensable?
Parce que travailler au Soudavou après avoir fait 3 ans à Hérouville, c'est comme aller jouer de l'accordéon sur tout seul dans le métro après avoir fait une tournée avec les Rolling Stones, quoi. C'est tout aussi impensable au niveau du vécu. Mais c'est vrai que ça a été une petite déprime de 5-6 mois de se retrouver privé de cette.
Frénésie
et surtout cette immense bulle de créativité. Un jour, il y a Art Garfunkel qui est passé au studio. Il a visité le studio, on a parlé pendant 10 minutes. Et j'étais fasciné, moi j'étais fan de Simon Garfunkel, donc parler 10 minutes avec Garfunkel, c'est quand même un privilège. Et le truc le plus étonnant qu'il m'a dit, il me dit, j'adore la production française. Je dis, ah bon ? Oui, la chanson française, tu vois, moi j'aimerais faire un disque comme... Comment s'appelle le gars qui est chez vous, là, qui fait des trucs incroyables? Il y a l'orchestre tout petit, la voix elle est énorme. Charles Aznavour. Là je dis, merde, alors là... Et c'était tout le temps comme ça. En 4 ans, j'ai l'impression que j'y ai passé 15 ans, moi, dans... Et... C'est dingue. Et c'était devenu, en fait, ça a un peu saccagé ma vie privée complètement, d'ailleurs, parce que c'était tellement intense que les jours où on ne travaillait pas, c'est un peu comme les tournées. J'avais qu'une envie, c'est de retourner là-bas... Parce que c'était devenu plus ma maison que chez moi, en fait.
Blue, electric blue. That's the color of my room where I will live. Blue, blue.
Après plusieurs péripéties, le château d'Hérouville se trouve confié à un garçon de 28 ans. Il est bassiste, ingénieur du son, producteur. Il s'appelle Laurent Thibault. Et c'est une nouvelle vie qui commence pour le château. Une nuit de l'année 1976, on prévient Laurent Thibault de l'arrivée d'Iggy Pop et Bowie. Bowie avait déjà séjourné et enregistré un album de reprise au château. Laurent Thibault raconte la suite pour l'émission Une histoire particulière sur France Culture.
Et vers 3h du matin, bon, je vois arriver dans le studio, j'attendais, donc David, suivi d'Iggy Pop, et David fait des roues dans le studio, comme ça. Et il dit à Jimmy, c'est le plus grand studio de rock'n'roll du monde. Dans la vie, on l'appelle Jimmy, évidemment, on ne l'appelle pas du tout Iggy.
Bowie et Jimmy, dit Iggy Pop, enregistrent leurs deux albums simultanément au château. Ce sera Low et The Idiot de Disc Balise, sur lesquels on aura l'occasion de revenir dans de prochains épisodes de Pop & Co. Laurent Thibault assure la prise de son, des lignes de basse, et parfois même la production pour l'un ou l'autre des disques.
Entrez, entrez.
D'accord.
Ok, bon, on va se mettre là.
La dernière escale de cet épisode de Pop & Co se passe chez Laurent Jaoui, auteur de Hérouville, le château hanté du rock, paru aux éditions du Castor Astral. Laurent Jaoui raconte Bowie, Iggy, les Bee Gees au château, et surtout Jacques Higelin, qui a enregistré 4 albums phares avec Laurent Thibault, dont Champagne pour les uns et Caviar pour les autres.
Satire joufflu, bouc émissaire, gargouilleuse émue, fière aux gorgones, laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne.
Il tombe amoureux de l'endroit, tant et si bien qu'il va y vivre, à demeure, en permanence, avec femme et enfant. Il a un premier fils, Arthur, qui vient de temps en temps, et puis il a un fils avec Cullen, qui s'appelle Ken, qui vit là, et il va... au fil du temps, se fâcher très régulièrement avec Laurent Thibault. C'est-à-dire qu'ils sont soit en pleine osmose, soit en crise conjugale. Et ça va durer comme ça pendant 4-5 ans, mais ça reste une rencontre hyper marquante pour Laurent Thibault et puis pour le château, parce qu'encore une fois, une chanson comme Champagne, quand on écoute bien les paroles de Champagne, on se dit qu'ils ne peuvent pas ne pas avoir été un petit peu influencés par ce qu'ils vivaient dans ce château-là. Quoi.
À partir du début des années 80, pour le château d'Hérouville, c'est à nouveau le début de la fin.
Il y a le fait que la situation économique se dégrade et que le château ne s'équipe pas, parce qu'il est dans l'incertitude sur son avenir, il ne s'équipe pas des consoles qu'il faut à l'époque. C'est-à-dire que dans les années 70, il avait le matériel idoine, adéquat. À côté de ça, ça se numérise, ça se digitalise, chacun peut avoir un petit studio chez soi au début des années 80, ça s'appelle le SSL, le Home Studio, et donc forcément, l'attrait du château dans les années 70, il disparaît un peu, puisque chacun peut un peu bidouiller chez soi. Et puis ensuite, il faut aussi reconnaître qu'on change d'époque, qu'on passe dans les années 80, et que la vie en communauté, le fait de... L'idée de passer 6 semaines ensemble, en 77, ça peut être super sympa, en 84, c'est déjà moins dans l'air du temps, quoi. Donc en fait, le château apparaît un peu décalé, quoi, apparaît un peu en... Ça devient un peu anachronique, et ceux qui le gèrent voit bien que c'est en train de décliner, mais joue un peu au gardien du temple, vous savez, comme quand on est un peu dans une posture en disant, bah, nous, on est les derniers rockers, bah, ouais, non, mais l'époque a changé, et puis le château, il s'effrite, quoi. Et les témoignages, c'est qu'il fait froid, c'est que, bah, on y mange plutôt des pommes de terre quand avant, on mangeait des trucs sympas, c'est qu'à tout moment, on peut se prendre un bout de corniche qui vous tombe sur la figure. Le château est en déliquescence au début des années 80 et va avoir des dernières années vraiment difficiles.
Tout au long des années 70, Michel Magne a tenté de revenir au château. Il le perd définitivement en 1979. Mis en liquidation judiciaire personnelle, Michel Magne se suicide le 19 décembre 1984. Reste la trace et l'héritage d'un homme qui a tenté de réinventer sa vie en permanence et de faire de ses rêves une réalité. Yann Lekelec.
Aujourd'hui, évidemment, vu d'une période où on interroge le monde d'après, mais comme si c'était quelque chose, voilà, qui devait être décidé par je ne sais pas bien qui et je ne sais pas quand. Bah, Magne, c'est quelqu'un qui a dit, en fait, moi, en permanence, je vais réinventer ma vie et celle des gens autour de moi. Et à plusieurs, on est capable de quelque chose. Et il me semble que cette pulsion-là, qui est une pulsion de liberté, et ben, j'ai l'impression que ça correspond à une aspiration assez largement partagée aujourd'hui, de se rendre compte qu'au fond, eh ben, notre avenir, il a réinventé, et qu'il a réinventé dans quelque chose qui est de l'ordre de l'accomplissement, bien sûr, personnel et créatif, mais également de l'homène de la communauté. Et pourquoi pas d'une communauté dans laquelle tout le monde a sa place. En fait, il n'y a qu'à. Et quand on dit il n'y a qu'à aujourd'hui, tout le monde dit, bah oui, non, mais c'est plus compliqué que ça, parce que mais c'était déjà compliqué à l'époque. Mais certains, et c'est le grâce de certains génies ou de certains, on peut dire fous, mais de fous géniaux, c'est de rendre possible les choses. Et moi, je pense que cette énergie-là, elle est inspirante, en fait.
Depuis 2015, le château d'Hérouville a été racheté par Jean Taxis, Thierry Garassino et Stéphane Marquis. Ils leur tapent pierre à pierre et le font revivre avec des enregistrements et des concerts filmés par Arte. Et c'est bientôt reparti pour une nouvelle vie. Le livre à l'origine de ce Pop & Co dédié au château d'Hérouville, c'est le roman graphique de Yann Le Kellec et Romain Ronzeau. Le titre, c'est donc « Les amants d'Hérouville », une histoire vraie, et il a paru aux éditions Delcourt. « It's a teenager dream », itinéraire d'un ingénieur du son, c'est donc le parcours à nul autre pareil de Dominique Blanc-Francard, une autobiographie de studio en studio, coécrite avec Olivier Schmitt, et que vous trouverez aux éditions Le Mot et le Reste. Et puis Laurent Jaoui vient de publier « Hérouville, le château hanté du rock », qui raconte T-Rex, Bowie ou Iggy Pop, en villégiature dans le Val d'Oise. C'est au Castor Astral.
Pop & Co. sur France Inter.
Standard de Pop & Co, bonjour.
Allô ?
Au bout du fil, il y a Pascal Danaé, musicien, auteur et chanteur du groupe de blues créole Delgrès, dont on va explorer une chanson avant que midi sonne. Et parmi les titres que diffuse Inter en ce moment, pour Pascal Danaé, le gagnant est Pierce Faccini avec Foghorn Calling.
On est sensible à ce genre de fusion comme ça, toujours un peu blues avec des choses un peu africaines ou Afrique du Nord, voilà. La folk et tout le côté Gnawa, des mélanges un peu inattendus, ça nous parle. C'est vraiment une tuerie.
Ce morceau figure sur Shapes of the Fall, nouvel album de Pierce Faccini.
Spied a ship at the harbor gate. Saw the mooring when the anchor dropped with the iron weight. Where does the will, does the wanting? Where does the heart, there's something? Where does the will, does the wanting? A hand to hope, a hope to hold, to drag forth the darkness from you. Darkness from you. Ship is leaving when the bell will toll, it'll toll for you. No denying when the log is lost, it can't be true. The darkness from you. Something where there's a will, there's a wanting. Where there's a heart, there's something. Where there's a will, there's a wanting.
out the darkness from you.
Bon, ça marche.
Ça marche. L'ordi est allumé et pour écouter chacun des éléments qui composent une chanson du groupe Delgrès, il suffit d'appuyer sur la barre d'espace. Delgrès, c'est un trio. Ravji au sous-bassophone, un tuba version XXL, Baptiste Brondy à la batterie, lui était absent ce jour-là, et Pascal Danaé, guitariste et chanteur qui écrit les textes en créole. La famille de Pascal Danaé vient de Guadeloupe. Aujourd'hui, on entre dans la chanson 4 et de matin, 4 heures du matin, qui donne aussi son titre à leur nouvel album.
4 heures du matin, c'est l'heure à laquelle mon père se levait quand il est arrivé en 58 en France hexagonale. Il venait de Guadeloupe. Et en fait, il déchargeait les caisses, il était manutentionnaire tout simplement. Et il se levait donc à 4 heures du matin pour aller décharger les wagons à la gare d'Argenteuil. Voilà, donc j'ai fait cette chanson pour lui et qui parle de ça, qui dit littéralement 4 heures du matin, t'es déjà debout, seul dans la cuisine. 4 heures du matin, t'es déjà debout, allumer la lumière. Cette espèce de routine du matin, comme un automate. Ça raconte aussi l'histoire de tous ceux qui, aujourd'hui encore, bah, se lèvent super tôt pour aller travailler, simplement subvenir aux besoins de leur famille et qui s'oublient au service des autres. Pouvoir parler de ceux qui sont un petit peu oubliés, ceux qui sont dans l'ombre, au moment où la lumière est complètement sur bah, la situation actuelle, le Covid et autres, ça c'est important pour moi.
Près de matin, c'est le titre de la chanson et c'est le titre de l'album. C'est le deuxième album du groupe Delgrès en créole, où c'est vous qui chantez, Pascal.
Oui.
Comment elle s'est imposée, cette langue ?
J'avais besoin de reconnecter avec des choses pour lesquelles je n'avais pas besoin de réfléchir. De retrouver ces phrases très très courtes, très très imagées. Donc pour moi, chanter en créole, c'est d'un seul coup un voyage dans le temps, c'est renouer avec toutes mes racines. Et voilà, c'est m'emparer de quelque chose, une espèce d'héritage. En fait, c'est le réclamer, quelque part.
Le réclamer ?
Oui.
Pourquoi ? Parce que vous trouvez qu'il n'est pas assez présent, qu'il n'est pas...
Parce que, tout simplement, quand on grandit à Argenteuil, en région parisienne, eh bien, on a une part de cet héritage. Mais il y a toute une partie, c'est comme si on vous disait, tiens, voilà, toi, t'as accès juste à cette partie de l'armoire, mais par contre, cette autre partie-là, c'est pas pour toi. C'est rien de volontaire de la part de mes parents. Mais simplement, c'était un état de fait. Je grandissais là. Et puis, évidemment, ce qu'on a envie de faire toujours, c'est d'aller voir ce qui se passe dans l'autre coin de l'armoire. Et c'est ce que j'ai fait avec le créole. Moi, mes parents, ils ne me parlaient pas créole parce qu'ils ne voulaient pas me déranger. J'étais le petit dernier. Et ils disaient, oh, non, lui, on va pas le perturber à l'école avec ça. Donc, évidemment, tous les disques qui étaient en créole, moi, je les décortiquais. Donc, oui, il fallait aller, quelque part, revendiquer ça et aller réclamer sa part d'héritage culturel.
Et alors, l'une des signatures sonores de Delgrès, c'est une guitare qui s'appelle la guitare Dobro.
La guitare Dobro, c'est devenu un type de guitare. C'est un peu comme le frigo, le réfrigérateur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des marques qui deviennent des types d'instruments au bout d'un certain temps. C'est surtout un style de guitare qui sont des guitares à résonateur. C'est en fait une première tentative qui a été faite dans les années 20 d'amplifier le son de la guitare acoustique. Et donc, c'est ces guitares qu'on voit qui sont des fois tout en métal, ont une espèce de centre, on voit un gros truc métallique, comme une espèce d'enjoliveur de voiture dessus. Et ces guitares sont, ont une sonorité justement un peu métallique, très particulière. C'est vraiment très emblématique du blues.
Pourquoi vous aviez envie du blues ?
Ce sentiment, quand on est antillais, d'être à la fois d'ici, mais pas complètement, et d'être d'ailleurs, mais pas complètement non plus, un peu entre deux finalement, et bien, dans cet espace-là, il y a quelque chose du blues. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va se poser comme ça tout seul, avec la guitare, et on va commencer comme ça à laisser venir monter des choses. Ouais, une mélancolie, une transe peut-être. Donc il y a vraiment un espace comme ça de résonance avec le dobro dans lequel les mots peuvent entrer.
Et c'est là que Pascal Danaï a fait appel à Rafji, qui tient le sousaphone ou sous-bassophone dans le groupe. C'est un cuivre énorme, souvent cantonné aux fanfares, bandas, marching band ou musique de l'Est. Chez Delgrès, le sousaphone se mélange à un blues qui croise les Antilles et la Louisiane. Je trouve qu'on dirait une sirène de bateau.
Ça peut vraiment être ça.
Mais en plus, le clip de 4 heures du matin, il se passe dans un port.
Oui, au port du Havre, justement. Voilà.
Vous dites justement.
Ben, parce que mon père est arrivé au Havre en 58. C'est ça, la boucle. Est... C'est ça, toute l'histoire. Donc, il y a quelque chose avec le Havre autour de cet album, parce que vraiment, c'est l'endroit où mon père est arrivé en 58. Plus tard, donc 4 ans plus tard, ma mère est arrivée en 62. Plein d'Antillais qui sont arrivés là, parce que c'était la ligne essentielle, où tous les Antillais, au moment du Bumidum, dans les années 60, sont arrivés par le Havre. En tout cas, beaucoup d'entre eux. Donc, endroit important, ouais, le port, le bateau, la mer, c'est quelque chose qui est très très présent dans notre musique.
J'aimerais bien qu'on écoute la voix toute seule.
Faut pas coûter, non, ça yo qu'a dit, pas coûter, pas au lieu, faut un travail, gagner l'argent, pour voyer y payer la raille.
Alors
Moi j'adore.
Ça c'est Rafji.
La voix seule déjà elle groove. Il y a toute l'essence du morceau, elle est déjà dans la voix. C'est-à-dire qu'il y a le rythme, il y a l'émotion, il y a le pays, et il y a aussi tous ces traitements sur la voix qui font que ben, on n'est pas sur une voix pure et naturelle. Elle est déjà traitée et donc elle est dans notre univers. Pour moi, ça résume déjà le morceau.
Mais votre voix chantée a rien à voir avec votre voix parlée. C'est plus éraillé.
Alors ça fait référence, c'est vrai, au chanteur de Groca, encore une fois. C'est le lien
qui
avec
la musique traditionnelle, de Guadeloupe.
Ouais. Qui est vraiment l'héritage africain, je dirais, le plus pur, entre guillemets, parce que vraiment c'est basé sur les tambours, les voix, c'est les gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Et puis souvent les gens qui font ça, c'est pas forcément des musiciens professionnels. C'est comme dans le blues, ça va être des ouvriers agricoles, des gens qui chantent les thèmes de tous les jours. Ma femme m'a quitté, j'ai des problèmes avec mon boss, je voudrais m'acheter une nouvelle paire de chaussures, je vais aller en ville, comme souvent ils vivent à la campagne. Donc moi je me sens très très proche de cette manière de chanter. Je trouve que c'est une connexion directe avec ce blues des États-Unis que j'adore. Donc quand j'aborde ces thèmes-là, des thèmes comme celui-ci ou d'autres, eh ben, très souvent dans ma tête, je suis un peu un chanteur de Groca. Donc voilà, parce que des gens comme Germain Calixte, ou il y en a Tis Céleste, des voix extraordinaires qu'on a aux Antilles. Quand je pense à eux, eh ben, voilà, ça m'aide à être vraiment en phase avec ce que je fais.
Au niveau de la forme, il y a comme un prêcheur qui chante et qui est répondu par les chœurs.
Il y a toujours cette combinaison de toute manière, une espèce de force, il y a la complainte et une espèce de force, parce que c'est vrai que dans ma manière de chanter, le fait de l'écouter comme ça, tout seul, je me rends compte, c'est très volontaire, c'est très... Il y a une espèce d'engagement, une force, une manière de s'investir dans la journée, d'y aller, de dire, ben allez, maintenant j'y vais, quoi. En gros, on dit à la fin, on répète, où ça faut avancer, tu sais qu'il faut que tu avances, même si un jour tu dois tomber, c'est comme ça.
Nous savions dit, faut pas regarder derrière, faut avancer, faut foutre et faire. Yo dit, faut pas regarder derrière, non, faut avancer, faut foutre et faire.
Quatrain Matin, c'est le nouvel album du groupe Delgrès. Le trio sera en concert au Trianon à Paris le 30 novembre. Hélène Bizio a réalisé cette émission avec Jenab Sangaré ce matin. Ilinka Negulesco s'est occupé des recherches de sons et de documentation et Jean-Baptiste Audibert assure la programmation musicale. La semaine prochaine, Pop & Co et Pop & Daft Punk et on entrera au cœur d'une chanson d'Alain Bachung. À samedi.